Espace public sur Couleur FM, l'émission qui donne des couleurs à la politique. Retrouvez chaque semaine les candidats aux élections municipales 2014.
Espace public, nouvelle édition, toujours consacrée aux élections municipales. Nous sommes aujourd'hui à Villefontaine avec Frédéric Hugon, candidat pour le Parti Socialiste, qui va se présenter tout de suite. Et vous êtes avec Véronique Boulieu et Thierry Borde pour cette nouvelle émission. Frédéric Hugon, bonjour.
Bonjour.
Petite tradition dans l'émission, on vous demande une petite carte d'identité. Qui êtes-vous ?
Alors, je ne représente pas déjà que le Parti Socialiste, mais une liste d'union de la gauche, PS, PCPRG et Société Civile. Donc moi, je suis Frédéric Hugon, j'ai 43 ans, je suis né dans une petite ville auvergnate et je suis arrivé à Villefontaine en l'an 2000. Donc, ça fait 14 ans que j'habite à Villefontaine. J'ai un parcours professionnel hétérogène, puisque j'ai beaucoup changé de métier, d'emploi, et je suis actuellement assistant parlementaire de Joël Villiers, qui est député de la 10e circonscription de l'Isère, et que l'on retrouve sur ma liste en position éligible, mais qui ne cumulera pas d'exécutif comme elle s'y était engagée.
Donc elle ne sera pas adjointe, clairement.
Elle ne sera pas adjointe.
Depuis 2010 à Villefontaine, Villefontaine pour laquelle vous souhaitez vous engager maintenant. Villefontaine, comme les autres communes, est dans un processus de métropole, de communauté d'agglomération, dans la CAPI. Villefontaine est aussi proche de Lyon, sera concernée par les futures démarches de métropolisation, d'euro-métropole, de pôle métropolitain, etc. Que pensez-vous finalement de la situation de nos communes aujourd'hui qui ne sont plus peut-être aussi autonomes que ça ?
Il y a une nécessité à se rassembler, à se regrouper et à travailler ensemble. Moi, je crois que les communes maintenant n'arrivent plus à faire face à certaines dépenses et l'intérêt de la mutualisation, de la métropolisation, d'abord ça oblige à travailler ensemble, à parler ensemble, à échanger et à réfléchir à l'organisation, au développement du territoire, pas vu du haut de son hôtel de ville, mais tous ensemble. Donc je pense qu'il y a un intérêt à continuer effectivement ce travail au sein de la CAPI qui a été débuté par Alain Cotalorda. Depuis maintenant 2007 d'ailleurs, et à continuer à mutualiser les services quand on peut le faire, quand c'est judicieux de le faire.
Et concrètement, que gagne votre commune dans la CAPI par exemple ?
Le développement économique, la politique de la ville sont des compétences de la CAPI. On a aujourd'hui des moyens qu'on n'aurait pas si on n'était pas effectivement à la CAPI. Typiquement, le développement de la ville nouvelle a dédié, on va dire, la zone d'emploi et donc les recettes liées à Saint-Quentin-Fallavier et la zone de vie à Villefontaine avec toutes les problématiques effectivement de logements sociaux et donc moins de recettes que les communes avoisinantes. L'idée de mutualiser les moyens à la CAPI, c'est aussi l'idée de ce qui a été mis en place d'ailleurs dernièrement, la péréquation, c'est de faire revenir des recettes dans les communes qui n'en ont pas du fait de leur conception de l'aménagement de départ.
Alors vous avez parlé d'économie, justement, passons à ce secteur. Qu'est-ce que votre programme propose pour le développement économique de Villefontaine ?
Alors moi je suis, vous avez dit 2010, mais je suis arrivé en 2000, mais je suis sur le terrain à Villefontaine depuis 2010 en porte-à-porte dans le cadre des primaires citoyennes. Et ce que les gens nous disent depuis 2010 et beaucoup depuis cette année, d'ailleurs on a repris de porte-à-porte là, depuis le mois de juin 2013, c'est que on a un problème typiquement de commerce à Villefontaine, les commerces disparaissent. On a un problème d'emploi, bien que sur le Nord-Isère, il y ait plus de 40 000 emplois qui soient implantés sur la zone et sur le territoire de la CAPI. On a donc un problème d'emploi et un problème de commerce. Donc à Villefontaine, nous, ce qu'on se propose de faire, c'est de redynamiser le tissu commercial local, puisqu'à chaque fois qu'un commerce ferme, déjà, c'est des clients qui manquent au commerce d'à côté. Et pour ce faire, on va s'appuyer sur les commerces qui ont été rachetés par la précédente, enfin l'équipe sortante, et les remettre à disposition de commerçants qui voudraient s'installer à Villefontaine sous forme de bail précaire, de bail gratuit pendant un certain temps, de façon à redynamiser ce tissu commercial.
Ils ont été rachetés par l'équipe sortante.
Oui.
Pour faire dans quel objectif ?
On s'interroge encore aujourd'hui pour poser des rideaux métalliques et des laissés inutilisés.
L'idée n'était donc pas la même que la vôtre ?
L'idée n'était pas la même que la nôtre. Je pense que les commerçants souffrent alors de la conception même de la ville. C'est vrai qu'on a des quartiers où les centres commerciaux étaient en impasse, donc avec des problèmes d'accessibilité, de visibilité. Donc ces centres commerciaux-là ne pouvaient pas effectivement perdurer sur dans le temps. Par contre, le centre-ville des Saint-Bonnet organisé autour du supermarché, là il n'y a pas de raison aujourd'hui que les commerces ferment les uns après les autres, sauf les raisons qui peuvent être invoquées soit par les commerçants, soit par les clients. C'est des problèmes de salubrité, de sécurité, d'éclairage, d'environnement. Et puis, là, depuis le début des démarrages des travaux de rénovation urbaine, on voit bien que le chiffre d'affaires des commerçants a baissé. Donc, typiquement, l'impact des travaux vient aussi impacter l'activité économique.
Alors, est-ce que justement l'ANRU ne viendra pas aider dans cette démarche ?
Le problème de l'ANRU, tel qu'il a été conçu au départ par Borloo, c'est un projet qui s'adresse plutôt à la partie de logement. C'est-à-dire qu'on voit bien d'ailleurs que la première tranche de travaux a consisté à rénover les bâtiments des bailleurs sociaux qui étaient dans le périmètre ANRU, qu'aujourd'hui, le projet tel qu'on le voit consiste à déplacer un supermarché d'une 200 à 200 mètres et de construire au-dessus des logements. On a complètement mis de côté le développement économique, le commerce de proximité, tant et si bien qu'aujourd'hui, sur les 30, 40 ou 50 logements qui vont se construire au-dessus de casinos, très peu ont été vendus. Et c'est pour moi d'ailleurs assez logique, c'est qui achèterait effectivement un logement dans une ville où il n'y a pas de commerce, où il n'y a pas de fleuriste, où il n'y a pas de traiteur, où il n'y a pas de pressing, où il n'y a pas de cordonnier. On a quand même une ville de 18 000 habitants, c'est le deuxième pôle économique de la CAPI, c'est la huitième commune de l'Isère qui en compte 535 je crois, donc c'est pas une petite commune, on n'a pas de fleuriste, et si on compare avec la Verpillière et où mon ami Nicolas Sinanzi est candidat, il y a 6 000 habitants, il y a 3 fleuristes. Donc on peut vraiment s'interroger sur la politique économique qui a été menée à Villefontaine depuis ces 20 dernières années.
Alors, pour être clair, l'ANRU, pour nos auditeurs, c'est l'Agence Nationale de Rénovation Urbaine.
Tout à fait.
Et alors, vous allez mettre des locaux à disposition, en location, mais comment justement vous allez convaincre les commerçants de revenir ?
On va s'appuyer effectivement sur la rénovation telle qu'elle est en place aujourd'hui. Faut pas nier que de toute façon, Casino, c'est le seul supermarché à Villefontaine. Ça va de toute façon, le dynamisme va se déplacer de quelques centaines de mètres. L'idée, c'est d'utiliser les anciens bâtiments de Casino, donc l'actuel mais qui va devenir ancien, soit pour en développer, pour développer une activité dans ces bâtiments. Donc ça peut être, on a beaucoup d'idées, hein. Ça peut être un centre social, culturel, ça peut être un centre de vie artistique, ça peut être un musée, ça peut être un lieu d'exposition, ça peut être un bowling, d'avoir une activité dans ces bâtiments en centre-ville pour redynamiser effectivement le tissu commercial qui est autour. Et voilà, amener des clients, amener des gens dans le centre-ville.
Très lié à l'économie, très lié au commerce, la situation de l'emploi à Villefontaine.
L'emploi, c'est la compétence de l'État. Maintenant, ce que nous on voit, c'est qu'à Villefontaine, on a beaucoup, à Villefontaine et autour, on a beaucoup d'outils, hein, mission locale, le bureau d'information jeunesse, Pôle emploi, le Greta, la CCI, le lycée, avec des formations très recherchées et en tout cas très courues. Ce que les gens nous disent, c'est que il n'y a pas de porte d'entrée unique, il manque un guichet unique quelque part. C'est-à-dire qu'on, quand ils vont chercher une information, s'ils ne vont pas la chercher au bon endroit, ils n'ont pas forcément la bonne réponse. Et on les oriente pas forcément au bon endroit ensuite. Donc ce que nous, on essaye d'imaginer, de créer peut-être, ce sera une espèce de guichet unique, un endroit où effectivement on peut avoir une réponse tant sur la formation que sur l'emploi et où orienter les gens qui sont à la recherche d'informations. On a un outil à Villefontaine qui a été créé il y a 10 ans et qui fonctionne bien. D'ailleurs, c'est le Forum de l'emploi. Même si pour ma part, je pense qu'il n'est pas placé au bon endroit parce qu'on l'installe dans un gymnase, c'est un peu compliqué. Il n'y a pas de confidentialité. Il y a beaucoup de gens au même endroit dans une petite surface. Je pense que ce Forum de l'emploi, il faut lui donner peut-être une dimension supérieure et en faire... peut-être le faire sur 2 jours et en faire un forum de l'emploi et de la formation. Une journée dédiée à la formation, une journée dédiée à l'emploi, par exemple.
Un guichet unique, c'est-à-dire une infrastructure, un bâtiment ?
S'appuyer peut-être sur ce qui existe. Hein. On a le bureau d'information jeunesse, le BIJ. Peut-être avoir effectivement des gens qui soient capables, formés ou capables de répondre à toutes ces questions, ces problématiques d'emploi, qui soient peut-être plus généralistes effectivement dans les réponses.
Alors, et si l'emploi est la compétence principale de l'État, l'une des compétences de la commune est aussi l'accompagnement social qui va de pair justement avec ces problématiques d'emploi, de précarisation des personnes. Quelle est votre position justement sur la politique sociale ?
On a, de par la conception de Villefontaine, une particularité. On a 5 maisons de quartier. Ça fait, bon, sur les villes de taille équivalente, c'est assez, assez rare d'ailleurs. Donc on a un tissu qui permet de traiter des problématiques sociales implantées dans la ville. On a, il y a un projet d'installation d'un PIMS, d'un pôle d'intermédiation sociale, dont les élus sortants ont parlé il y a quelques années et qui semble arriver, enfin être encore dans les cartons, mais voir le jour ces dernières semaines. On a bah, effectivement des services sociaux, enfin on a les services administratifs, la CAF, Pôle emploi qui sont sur Villefontaine. Donc l'action sociale, c'est effectivement une part importante de l'action politique à Villefontaine. Nous, on se propose effectivement de s'appuyer sur ce qui est existant et de renforcer ce qui est existant, de mettre en lien toutes ces structures, de mettre en lien les maisons de quartier. Puis on a un outil qui est nouveau à Villefontaine, on ne peut pas s'enorgueillir de ça, mais on est classé depuis le 1er janvier en zone de sécurité prioritaire, l'une des 65 ou 68 zones de sécurité prioritaire de France. J'ai entendu il y a quelques temps le maire sortant nous expliquer qu'en 2003, on était déjà dans les 23 quartiers prioritaires qui étaient appelés des petits Chicago. Donc on peut déjà s'interroger sur ce qui a été fait sur cette problématique de la prévention de la sécurité depuis 2003. Mais la zone de sécurité prioritaire nous donne des moyens, enfin l'État met des moyens pour traiter les problématiques de délinquance, donc l'État fait son travail, charge aux communes de s'occuper de toute la partie prévention, politique de la ville, effectivement l'aspect social. Nous, on se propose d'organiser un conseil local de sécurité et de prévention de la délinquance, un CLSPD, qui permet d'avoir autour de la table tous les acteurs sociaux de la commune, que sont les associations, les bailleurs sociaux, le monde enseignant, effectivement la police municipale, les élus en charge de la politique de la ville, et d'aller traiter le problème de fond, le problème de prévention et le problème de fond, et donc les problématiques sociales. C'est mettre en lien tous ces acteurs pour tous ensemble travailler à la résolution de problèmes.
Alors justement, la sécurité, vous proposez de développer la police de proximité, vous développez de la vidéosurveillance, protection, comme on dit maintenant.
On a déjà plus d'une soixantaine de caméras, je crois, à Villefontaine, 65 ou 68 de mémoire. Il y a des outils qui sont peut-être plus performants en termes de vidéosurveillance, comme des systèmes de caméras mobiles qu'on peut installer le matin et redémonter le lendemain, et qui vont typiquement permettre de traiter des problématiques de trafic, de délinquance, trafic de drogue. Ça, c'est des choses qui existent dans la banlieue lyonnaise à Vénissieux, je crois, de mémoire. Nous, ce qu'on se propose de faire, c'est effectivement d'avoir, à côté de ces moyens de l'État, de ces 34 gendarmes qui sont arrivés sur la ZSP entre l'île d'Abo et la Verpillière, qui sont sanctuarisés, c'est d'avoir, de renforcer effectivement les missions de la police municipale, qui soit vraiment sur le terrain au contact de la population, et de créer des équipes de médiateurs. Pour ça, on va s'appuyer sur les jeunes villards qui réussissent. On a un tissu associatif qui est très dense, on a un tissu sportif extraordinaire, mais on a surtout des gamins à Villefontaine qui réussissent. On a des champions de France, des champions d'Europe, des champions du monde, que ce soit en boxe, en waterpolo, en kempo. C'est d'aller chercher ces gamins qui sont nés ici, qui ont grandi ici, qui connaissent les quartiers, qui connaissent les problématiques, et qui s'en sont sortis, et se servir d'eux comme d'un exemple, et d'aller effectivement de leur donner pour mission d'aller chercher tous ces gamins qui sont en rupture sociale ou en rupture scolaire, et de les ramener dans les structures associatives ou les maisons de quartier.
Et donc pour terminer avec cette partie plus sociale, la situation ou vos volontés en termes de logement social ?
On en a déjà beaucoup. Je pense que là, il y a un effort à faire de la part des bailleurs sur l'entretien de ces bâtiments. Donc pour être beaucoup sur le terrain, effectivement, moi j'ai pu aller dans certains immeubles où au-delà des problématiques que rencontrent les gens, qui sont des problématiques réelles d'emploi, de pouvoir d'achat, il y a un problème d'entretien des bâtiments. Il y a des bâtiments qui ne sont plus entretenus par les bailleurs, et effectivement on n'a pas envie d'y vivre, et on peut comprendre aussi que les gens qui habitent dans ces bâtiments ne se sentent pas bien là où ils sont. J'ai quelques exemples. Moi, je me rappelle aux fougères d'immeubles où, à la tombée de la nuit, en mois de novembre, quand on fait du porte-à-porte à 18h, il fait nuit, où il n'y a pas d'éclairage au-dessus des portes, on avance à tâtons dans le noir. Certains quartiers aux fougères où on peut croiser des rats, parfois. D'autres en centre-ville qui sont à quelques dizaines de mètres à vol d'oiseau de la mairie, où on a concentré des populations qui ne parlent pas bien français, et où on voit que la mixité n'existe plus, que le lien social est rompu, et avec un entretien des bailleurs qui est quasi inexistant, c'est-à-dire plus d'espace vert entretenu, des boîtes aux lettres sur lesquelles il n'y a plus de portes, et où là effectivement on renvoie une image quand même de la citoyenneté ou de la ville et de l'accueil qu'on peut avoir de ces habitants-là qui est catastrophique.
Comment comptez-vous faire ?
d'être présent dans les commissions avec, aux côtés des bailleurs sociaux, puis peut-être d'organiser alors, ce qui existe aujourd'hui pour les propriétaires, c'est-à-dire les assises du logement, qui étaient plutôt dédiées aux propriétaires et aux présidents d'associations pour qu'ils traitent ensemble des problématiques qu'ils peuvent avoir ensemble, enfin, ou indépendamment les uns des autres. Et c'est d'avoir, un peu comme le Forum de l'emploi, d'étendre ces assises au logement dans sa globalité et d'avoir dans une même pièce les locataires, les propriétaires et les bailleurs sociaux. Parce que de toute façon, Villefontaine est conçue de cette façon-là. Au pied des immeubles, il y a des maisons, et dans ces maisons, il y a des propriétaires. Donc il faut que les gens puissent se rencontrer ailleurs que, ailleurs que là où ils se peuvent se croiser habituellement, qu'on institutionnalise un peu ces événements-là et que les gens se parlent.
Alors on va faire une première pause, et avec un exercice maintenant traditionnel dans notre émission, on vous a demandé d'arriver avec la pause musicale que nous allons passer dans quelques secondes. Qu'avez-vous choisi ?
J'ai choisi un morceau de deux jeunes villards qui s'appellent Sarah et Aurélien, qui l'ont composé dans le cadre de la campagne des élections à Villefontaine. C'est un morceau qui s'intitule « Aimer Villefontaine, acteur de demain ».
On l'écoute.
Se croire manipulé sans avoir conscience qu'on peut tout changer. Aucune idée n'est épargnée, vos désirs les réaliser. J'ai dépensé plein la tête, mais finalement des rêves. Pourquoi pas faire confiance à quelqu'un qui me représente? Trêve de plaisanterie, cesse de t'endormir. Quête d'une nouvelle vie, grève de quelques sourires. C'est ensemble maintenant qu'il faut changer le cours du temps. Ouvrir ce livre à plusieurs et écrire ce que nous y pensons. Villard, je le suis. Villard, je le resterai. Aimez Villefontaine comme Villefontaine vous a bercé. Soyons innovants, de dynamiques citoyens. On a les cartes en main, il faut s'en donner les moyens.
Et si de demain on était fiers, parce que demain on l'a choisi. C'est peut-être une pierre par une pierre, mais c'est comme ça qu'un édifice on bâtit. Et si de demain on était fiers, fiers d'avoir enfin participé, plutôt que de rester là à se taire, se sentir acteur et broder. Le silence n'a jamais permis le changement, la violence ne résout pas.
C'était Sarah et Aurélien, deux jeunes villards, donc, qui nous proposaient Aimer Villefontaine, acteur de demain. Vous êtes sur Couleur FM 97.1 dans votre magazine Espace Public, l'émission qui donne des couleurs à la politique. Et nous sommes en compagnie de Frédéric Hugon, qui se présente à Villefontaine avec la liste Aimer Villefontaine. Alors Frédéric Hugon, un autre sujet, la ville de Villefontaine est une ville où il y a beaucoup de jeunes. Vous annoncez 30% des villards ont moins de 15 ans. Alors qu'est-ce que vous avez prévu pour tous ces jeunes ?
La moyenne nationale est à un peu plus de environ 19%. Donc c'est vrai que c'est une ville très jeune. Je crois que la ville la plus jeune d'ailleurs de France à une époque, c'était Lille d'Avaux. Mais on doit être juste derrière, effectivement. On a besoin de remettre de l'animation. On a un tissu associatif qui est extrêmement dense à Villefontaine, de par la conception même de la ville nouvelle. C'est-à-dire quand les gens sont arrivés, il n'y avait pas de structure, donc ils ont créé eux-mêmes leur propre structure associative, culturelle, sportive. On retrouve le comité de jumelage, enfin beaucoup d'associations qui fêtent leurs 20 ou 30 ans là cette année. Et donc on a un tissu associatif dense. La question c'est comment on aide ces associations à se renouveler, à aller chercher effectivement de nouveaux adhérents. Et ça passera par l'animation, ça passe par remettre de la culture en accessibilité à tous. Alors c'est pas forcément de la culture gratuite, mais c'est ce qui est un peu, enfin c'est ce qui est expérimenté par certaines associations, c'est de sortir des lieux habituels d'expression culturelle, par exemple artistique, et d'aller s'installer ailleurs. Moi je pense aux chorales en chœur la dernière fois qui sont installés dans les grands ateliers. Je pense aussi parfois à certains vernissages, Georges Testu qui avait fait venir des artistes, qui animait le vernissage en musique, ou avec des gens qui pratiquaient le slam. Donc c'est d'essayer de croiser effectivement toute cette politique culturelle, associative et sportive, et de la faire interagir, hein, de mettre du sport dans l'artistique et de mettre de l'art dans les sports et d'essayer d'attirer les gens par un autre biais. C'est-à-dire qu'on puisse attirer les sportifs dans des lieux de culture et qu'on puisse attirer les gens de culture dans les lieux d'expression sportive.
Alors vous avez une salle qui a été rénovée, qui est la salle Daniel Balavoine. Mmh. Alors est-ce que celle-ci va pouvoir servir aussi, durant votre mandature, si vous êtes élu premier magistrat, à aider justement à l'émergence des jeunes talents, puisque là, par exemple, ceux que vous nous avez présentés, ce sont de jeunes talents. Et vous le disiez en aparté tout à l'heure, effectivement, vous avez beaucoup de jeunes qui ont du talent sur Villefontaine et qu'il faut faire quelque chose pour eux.
Mmh. Et qui constatent d'ailleurs que les événements comme la nuit du hip-hop, je crois, se fait à l'île d'Abo et pas à Villefontaine, et que beaucoup de villards vont à l'île d'Abo et nous interroge sur qu'est-ce qu'on va faire justement. Donc il y a l'idée de créer un événement annuel, enfin de ponctuer l'année déjà d'événements dans la ville. Hein, on a déjà la fête de printemps, il y a effectivement le marché de Noël, peut-être d'avoir un événement par saison et puis d'avoir un événement majeur dans l'année. Je suis frappé, moi, d'entendre des gens en porte-à-porte, des jeunes couples qui ont une trentaine d'années, qui ont grandi, qui sont nés pratiquement à Villefontaine, qui ont grandi, qui sont partis faire leurs études et puis qui ont commencé à travailler ailleurs, et qui reviennent aujourd'hui parce qu'ils ont des enfants, que les parents, par exemple, sont là et qu'il y a une facilité pour les faire garder, et qui nous parlent des années 90, et systématiquement, on parle du carnaval. Donc il y avait cet événement à Villefontaine où tous les villards de tous les quartiers descendaient au centre-ville et se retrouvaient à ce moment-là. Et ça, c'est très frappant. On n'a plus cet événement majeur à Villefontaine. Donc l'idée d'avoir, par exemple, un festival des arts de la rue, c'est-à-dire de s'appuyer sur ce qu'est Villefontaine. C'est une ville urbaine, c'est une ville bétonnée, c'est une ville nouvelle. Donc on allait chercher quelle est la spécificité de Villefontaine et de développer un événement culturel, artistique, pourquoi pas sportif, autour de cette spécificité de Villefontaine. Donc un festival des arts de la rue, ça permet aussi de faire descendre la culture dans la rue. Il y a l'idée quand même, bah effectivement, la salle Balavoine, c'est bien, mais il faut y aller, quoi. Ce qu'on constate, c'est que la culture, même si les lieux sont accessibles, on n'y va pas forcément si on n'en connaît pas les codes. Et quand on a des difficultés à savoir ce qu'on va manger à la fin de la semaine, on ne se pose pas la question de savoir si on va au spectacle le soir. Donc l'idée, c'est plutôt de faire descendre des spectacles dans la rue.
Alors, est-ce que c'est pas compliqué quand on est justement à la mairie de Villefontaine, qu'on a le Théâtre du Velin, qui est un bâtiment qui appartient à la CAPI? Comment arriver à marier tout ça, quoi? Parce qu'il y a une saison culturelle CAPI, est-ce qu'il y aura une saison culturelle Villefontaine ?
Alors moi, j'arrive pas à aller à la saison culturelle CAPI, parce que la dernière fois que j'ai envoyé mon chèque et j'avais réservé mes 13 spectacles, on m'a rappelé en me disant on a un petit problème, et en réalité, j'avais plus qu'une place sur un spectacle. Donc là, il y a une façon peut-être de revoir, il faudra peut-être revoir la billetterie de la CAPI, du Théâtre du Velin, mais ça, c'est un outil effectivement qui existe et qui fait rayonner d'ailleurs Villefontaine et la CAPI, bien au-delà du territoire de la CAPI. Il y aura pas forcément, enfin, il peut y avoir effectivement une saison culturelle Villefontaine. Moi, je préférais qu'on ait une animation culturelle, une animation dans la ville, qu'on soit vraiment au plus proche des habitants. Au Théâtre du Velin, moi, j'ai pu assister à des répétitions d'orchestre philharmonique qui étaient gratuites. Donc, il faut juste que ça se diffuse et qu'on le sache, quoi. Donc, si, c'est encore très confidentiel. Si on y allait une fois et qu'on a laissé son adresse mail, on est invité. Mais effectivement, je suis pas sûr que les villards sachent qu'on peut aller aux répétitions et que c'est gratuit. Donc, peut-être effectivement promouvoir ces moments-là qui sont, voilà, accessible plus facilement aussi à tous.
Et qui ne doivent pas être réservés, entre guillemets, à une élite.
Tout à
Alors,
fait.
Pour un public plus jeune, que vous le savez, la réforme des rythmes scolaires, c'est pour la rentrée 2014. Alors, qu'est-ce que votre équipe a prévu pour cette réforme des rythmes scolaires ?
Les rythmes scolaires ont été validés par la majorité sortante et par la DASEN, l'Éducation nationale. Les rythmes ont été retenus, je crois que c'est 9h, pardon, midi, 14h, 14h15, à 16h15 ou 16h30, je ne sais plus l'heure exacte, avec les temps d'activité périscolaire de 8h15 à 9h. Qui est un choix particulier parce que en trois quarts d'heure le matin à l'arrivée à l'école, je ne suis pas sûr qu'on arrive à intéresser les enfants et à leur faire découvrir d'autres activités, que ce soit artistiques ou sportives. Et ce temps même de trois quarts d'heure est très limité, c'est-à-dire qu'on ne peut pas effectivement proposer des activités où il y a une mise en place importante. C'est fait, c'est choisi. On ne peut pas revenir dessus avant trois ans, en tout cas, sur les choix des rythmes scolaires. Ce qu'on peut, nous, faire, c'est évaluer l'année prochaine ce qui a été mis en place et voir comment on peut corriger les erreurs s'il y en a. On pourra éventuellement réunir les trois quarts d'heure en temps d'une heure et demie, où là, effectivement, on aura un peu plus de temps. Ça veut dire aussi travailler, collaborer avec l'ensemble des associations et du tissu associatif sur Villefontaine et bien au-delà, parce que je crois qu'il y a des associations de Bourgoin déjà qui interviennent dans les écoles.
Et cela a un coût, alors est-ce que ça restera gratuit ?
Nous, on propose la gratuité, effectivement, des temps périscolaires.
Alors, le pas est tout trouvé. Par rapport à la fiscalité, qu'est-ce qui va se passer à Villefontaine ? Est-ce que vous allez essayer de bloquer le montant des impôts ? Est-ce que la fiscalité est élevée pour tout contribuable ?
la fiscalité à Villefontaine est déjà élevée et elle repose sur un nombre de contribuables qui est limité du fait de effectivement du nombre de logements sociaux et de problématiques qu'on peut avoir. Ça signifie d'ailleurs qu'augmenter les impôts aurait très peu d'impact sur les recettes. Donc c'est pas une mesure qu'on va mettre en place. On n'augmentera pas les impôts. Il y a par contre une taxe sur l'électricité qui avait été créée par l'ancienne majorité dans les années 90, qui représente pas grand chose, mais qui pèse sur les foyers les plus pauvres et les plus précaires et ceux qui n'ont pas d'autre choix que de se chauffer à l'électricité. Villefontaine, ville nouvelle, a été conçue dans les années 70 où le tout électrique c'était la mode, avec des logements qui étaient isolés comme les années 70. Donc ça veut dire qu'aujourd'hui dans les logements sociaux on n'a pas d'autre choix que de se chauffer avec un grille-pain. Et donc effectivement ça a un impact qui est modéré sur le pouvoir d'achat, mais on se propose nous d'étudier la suppression de cette taxe sur l'électricité, d'autant que la mairie est contributrice de cette taxe et que on n'a pas de chiffre exact, mais on serait tenté de dire que les recettes générées par l'ensemble des habitants permettent de payer la taxe payée par la mairie.
Ça devient vite compliqué dans une commune quand on a des projets et qu'on n'a pas le budget qui va en face.
À partir de 2015, il y a des dotations d'État qui arrivent liées à la politique de la ville qui est mise en place actuellement par le ministre François Lamy. Et d'autre part, il y a des accords qui ont été passés avec la CAPI, la fameuse histoire de la CLECT, de transfert de compétences. Et on estime assez justement d'ailleurs qu'à partir de janvier 2015, on aura entre 2,5 millions et 3 millions d'euros supplémentaires à investir dans Villefontaine.
Alors quels seraient les investissements que vous privilégieriez ?
Là, on s'appuie sur quelque chose qui est extrêmement simple. C'est le rapport régional de la Chambre des comptes qui date de 2013 et qui dit dans sa troisième page que Villefontaine est la 23e ville parmi les 100 plus défavorisées, que Villefontaine n'a pas la connaissance de son patrimoine et qu'il y a un problème sur les appels d'offres, entre le prix passé à l'appel d'offres et le prix réellement payé. Il y a un écart de 15%. Et là, on s'intéresse plutôt à la partie patrimoine. Tous les groupes scolaires de Villefontaine ont été globalement construits à peu près à la même époque, il y a 20 ans. Ils ont été entretenus, à mon avis, de façon passable. D'ailleurs, ça a généré des divisions dans la majorité sortante, se renvoyant les uns et les autres la balle sur l'entretien qui était fait ou pas dans les écoles. Nous, ce qu'on en sait, ce qu'on en voit, parce qu'on est présent à la sortie des écoles où on a des parents d'élèves avec nous, c'est qu'il y a des fuites dans les écoles, il y a des plafonds qui fuient, il y a des plafonds qui se fissurent, il y a des dalles de plafonds qui s'effondrent dans les salles de classe, qu'il y a des volets roulants qui ne s'ouvrent pas, des fenêtres qui ne se ferment pas. La priorité, ce sera d'avoir un audit de l'ensemble du patrimoine municipal. D'abord pour savoir ce qui est à nous aujourd'hui et ce qui ne l'est pas encore, ce qui n'a pas été transféré depuis janvier 2007 et sa date. Donc on peut s'interroger sur la présence des élus, non seulement au Satin avant, entre 2005 et 2007, et à la CAPI depuis 2007. Donc c'est de savoir quel est notre patrimoine, de savoir dans quel état il est, et de prioriser effectivement tous les travaux de rénovation et de mise en sécurité, et en particulier, je pense, dans les écoles, pour les enfants et les personnels.
Alors on arrive bientôt au terme de cette émission. Alors très rapidement, une dernière question peut-être. Vous parliez tout à l'heure de l'animation artistique et culturelle, d'amener la culture, l'art dans la rue. Est-ce que ça passe par une politique de soutien aux associations peut-être ?
Oui, ça passe par une politique de soutien aux associations et aux artistes locaux. On a, je le disais, beaucoup de sportifs et beaucoup d'artistes locaux aussi. C'est d'aller s'appuyer sur tous ces villards qui permettent de faire rayonner la ville et de la faire rayonner bien au-delà d'ailleurs des frontières de la ville. L'idée, c'est effectivement de lier demain, enfin de mettre toutes les associations autour de la table et de savoir comment on va travailler ensemble, mais surtout d'établir des règles de bonne conduite, c'est de lier la subvention à l'investissement des associations, le respect des lieux qui leur sont prêtés, l'engagement qui peut être le leur dans la ville, la façon dont ils font rayonner la ville. On a aujourd'hui des gens qui exportent, enfin qui vont faire des championnats, je pense au taekwondo, je crois qu'ils étaient à Monaco, ils partent en Allemagne, voilà, ils font rayonner la ville, ils font parler de Villefontaine, donc oui, effectivement, il y aura un soutien aux associations qui réussissent et qui font rayonner Villefontaine.
Très bien. Et alors, pour terminer, deuxième petit exercice, on vous a demandé de venir avec un livre à nous conseiller. Quel est-il ?
Je suis venu avec un livre qui est introuvable en Isère, puisque moi je suis né en Auvergne. C'est une dame qui s'appelle Liliane Godat qui a écrit un livre qui s'appelle donc Alice, Angèle et les autres, et les femmes de la mine. Moi je suis né dans un bassin minier. Mon grand-père maternel était mineur de fond, a passé 35 ans au fond de la mine à 850 mètres de profondeur. Alors quand ils descendaient, ils étaient portugais, ils étaient espagnols, italiens, yougoslaves, à 13 nationalités différentes. Et quand ils remontaient de la mine, c'était des gueules noires, ils se ressemblaient tous. Il y avait une solidarité, parce que si l'un ou l'autre ne faisait pas bien son boulot, parfois ils ne remontaient pas. Et ce livre parle des femmes de mineurs, parce qu'on parle beaucoup des mineurs, des conditions de travail, des conditions de vie. Et ce livre parle d'ailleurs de la mine et des mineurs, mais à travers le regard des femmes. où on nous explique effectivement qu'elle tremblait le matin et elle respirait le soir quand les mineurs remontaient, qu'elle faisait des petits boulots, qu'elle tenait des bistrots, qu'elles étaient lavandières et que sans elle, d'ailleurs, les mineurs n'auraient jamais pu descendre et remonter probablement.
On ne pourra certainement pas trouver le livre, mais en tout cas, on en sait peut-être déjà un tout petit peu plus sur vous. Frédéric Hugon, on vous remercie d'être venu nous voir.
Merci d'être passé nous voir. Donc Frédéric Hugon pour la liste Aimé Villefontaine.
Merci.